Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Francis Gavel au micro. Dans les notes du livret qui accompagne le coffret 4 CD qui, publié en 1991, retraçait l'aventure dantesque de Crosby, Stills, Nash & Young, ce super groupe californien où harmonie vocale satinée et solo de guitare incisif ne vinrent malheureusement pas à bout des crises d'égo démesurées, David Crosby, pour évoquer sa chanson « I'd swear there was somebody here » que nous venons d'écouter, écrit « Je ne sais pas d'où c'est venu, c'était comme une hallucination. En fait, j'ai toujours conçu d'étranges lignes de chant. Là, j'ai enregistré avec de l'écho 6 pistes a cappella. Par la suite, j'ai éprouvé un sentiment persistant que cette chanson parlait de Christine Hinton, qui était ma compagne, que j'aimais profondément et qui est décédée si subitement. Je n'étais pas prêt pour faire face à ce deuil. Ce morceau était donc un accablant requiem aussi soudain qu'improvisé. » Le 19 janvier dernier, annonce a été faite du décès de David Crosby à l'âge de 81 ans, et même si nous, ses admirateurs forcenés, nous y attendions, tant il avait brûlé sa vie par les deux bouts, tous étions convaincus, année après année, que Cross, c'était son surnom, était néanmoins immortel. À ce deuil, nous n'étions à notre tour pas prêts, et alors, jouant sur une traduction plus littéraire que littérale du titre de la chanson tout juste écoutée, jurerions bien, nous aussi, qu'il y a encore quelqu'un ici. De fait, débutons maintenant cette émission comme initialement prévu avant l'annonce de sa triste disparition.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur, Francis Gavel, au micro. The Me and My Friends, dont le nouvel album Before I Saw the Sea accompagnera à deux reprises au titre d'album du mois notre première émission de l'année 2023, on pourrait dire que le quintet, tout droit venu de Bristol, ville considérée comme la plus douce côté température du Royaume-Uni, est l'incarnation de ce qu'on pourrait désigner par le terme presque oxymorique de groove feutré. Mais ce doit être l'effet du soleil, car pensez donc. Ici, les solistes délaissent guitare et synthé et expriment leur virtuosité, respectivement Sam Murray et Emma Coleman à la clarinette et au violoncelle. Un premier aperçu sur le double titre Root Witness qui ouvre l'album et a également ouvert notre émission. Ici, parallèlement, délicat au chant et discret à la guitare, Nick Russell susurre des mélodies qui empruntent au folk de l'Irlande aux États-Unis, tandis que la section rythmique, Fred Harper à la batterie et James Greenwell à la basse, semble à peine bousculer le tempo, puisant subtilement leur inspiration rythmique du côté des pulsations du reggae jamaïcain, du highlife ghanéen et du jazz éthiopien. Alors, peut-être que cette signature musicale, déjà à l'œuvre dans les trois albums précédents du groupe, trouve, avec ce Before I Saw the Sea, une nouvelle résonance, plus méditative encore, en écho autant suspendu que fut celui du confinement de 2022, et au cours duquel les cinq membres de Me and My Friend décidèrent, pour reprendre leurs propres mots, de concevoir un disque pour accompagner les voyages quand aucun ne pouvait être réalisé. Donc cet album de Me and My Friends, album du mois de l'émission, on en réécoutera un deuxième titre en toute fin d'émission, un petit peu avant 11h30. Et de suite, je me tourne, je l'accueille et je lui présente à l'antenne mes meilleurs voeux ainsi qu'aux chroniqueurs présents.
C'est déjà à nous.
Voilà, Thomas Fouet, bonjour.
Bonjour Francis et merci. Meilleurs voeux, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. C'est donc un tour d'horizon des sorties en salle que nous vous invitons en compagnie de Francis, bien évidemment, et de la rédaction des Fiches du Cinéma, représentée aujourd'hui, si je ne m'abuse, par un trio inédit. Nous n'avions jamais connu, je crois, une telle configuration. Je vous la présenterai dans quelques instants. Nous sommes donc le samedi 28 juillet. Rien ne va plus. Sochaux est 4e de Ligue 2 et Amiens 6e. Cette année, seules les deux premières places, je vous le rappelle, car je sais que ça vous passionne, permettront de monter en Ligue 1. C'est d'autant plus inquiétant qu'Amiens reçoit ce soir le leader, le Havre. Mais à la fin, de toute façon, c'est Gustave Perret qui gagne. Petite référence d'architecte. Au programme ce matin, Thelonious Monk et Gustav Mahler, une balade dans la périphérie de Madrid et une épopée hollywoodienne, la jeunesse de la France des années 80 et le prolétariat italien des années 1900 et bien au-delà d'ailleurs. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous fait pas voir du pays. À mes côtés, c'est désormais un habitué, Florent Boutet. Bonjour Florent.
Bonjour à toutes et à tous.
Margherita Gera, bonjour Margherita.
Bonjour à tous.
Et Gilles Tourment, bonjour Gilles.
Bonjour tout le monde, bonjour Thomas.
Margherita, Gilles, nous vous retrouvons après plusieurs mois d'absence et c'est avec grand plaisir. Quoi de mieux pour commencer cette émission que de répondre à l'invitation de Jonas Trueba, venez voir. C'est le titre de son nouveau film, celui avec lequel s'affirme le plus évidemment la parenté de son cinéma avec celui de Hong Sang-soo. Format concis, attention portée aux saisons, échanges a priori anodins desquels émergent ponctuellement ici tel aveu intime, là tel constat doux amer. Quand le film qu'il a révélé au public français, le très beau Eva en août, avait invité plutôt à une vague de comparaison certes pertinente mais un peu systématique avec l'œuvre de Romère, à laquelle toutefois et immanquablement fera penser, une nouvelle fois, cette suite d'échanges entre deux couples. En quelques mots donc, et ils suffiront car le film est bref et l'argument minimaliste, Madrid de nos jours, deux couples d'amis trentenaires, Elena et Guillermo d'une part, Susana et Dani d'autre part, assistent à un récital de piano dans un bar. Les premiers vivent à Madrid, les seconds, qui ont quitté la ville, attendent un enfant. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent donc dans la maison en périphérie de Madrid où Susana et Dani se sont installés quelques mois plus tôt. Au casting, on retrouve Itsaso Arana et Francesco Caril, interprètes d'Eva en août et de La Reconquista, précédent film de Trueba. À leur côté, Vito Sanz, il était également à l'affiche d'Eva en août, et une nouvelle venue chez l'auteur, Irène Escolar, que l'on retrouvera bientôt si le film est distribué en France, dans Las Chicas Están Bien, le premier long-métrage d'Itsaso Arana. J'y serai attentif et le cas échéant, vous tiendrez au courant. Il y a quelques mois, sur ces mêmes ondes, nous avions évoqué Qui à part nous, le documentaire long format de Trueba, c'est un objet très différent qui nous propose aujourd'hui. Qui veut ouvrir les hostilités ? J'ai envie de donner la parole à Gilles pour fêter son grand retour parmi nous.
Merci pour le cadeau de nouvelle année.
Et ne pas l'embarrasser, alors, j'espère.
Oui, non, c'est un film qui est très beau, qui est un film sur le temps, l'amitié, sur la vie qui défile, que je qualifierais de dessert qui est à la fois une sorte de crème fouettée par sa légèreté et citronnée par le côté un peu acidulé des dialogues. Ça, il y a deux grands moments qui s'opposent très bien, que je trouve magnifique, c'est le repas, l'apéritif d'entrée, qui est uniquement musical et où tout est basé sur les mouvements, sur les gestes, sur les mimiques. Il y a quasiment très peu de dialogue et on découvre les personnages par ce qu'ils sont intérieurement, leur façon d'être, de bouger les mains, un regard. Et puis vient s'opposer à ça le repas chez donc Guillermo et sa compagne, qui là est bavard, mais ce qui est normal, et qui donc s'oppose par le verbe au silence et à l'observation du premier. Et ce repas qui est l'occasion de parler du temps qui a passé, de l'avenir qui est espéré, et surtout celui de mettre en vision deux choses. D'un côté, il y a deux intellectuels, qui sont le couple invité, de l'autre côté un couple très pragmatique qui vit la vie au jour le jour, et avec un moment drôlissime vers la fin où donc la femme du couple invité lit un large extrait très pompeux de l'allemand Sloterdijk qui s'appelle j'ai plus le titre en tête, et à la fin de la conversation la façon dont on doit se comporter dans la vie, le titre c'est « Tu dois changer la vie ». Tu dois changer la vie. Et à la fin de ce long moment très pompeux, très disert, très presque incompréhensible, la jeune femme qui invite dit oui, au fond, il faut arrêter de polluer. Et ça donne bien l'idée de ce film entre l'art de voir les choses avec distance, hauteur, questionnement parfois un peu méprisant, et de l'autre côté, profiter de la vie, le carpe diem et du réel. Et je trouve que cette opposition qui est très douce et en même temps très acide est très bien vu, et surtout la fin autour de ce message, profiter de la vie, profiter du réel, ce que rappellent les dernières images, qui sont les images du film en train de se tourner, pour bien nous rappeler que ce n'était qu'une fiction et qu'il faut la prendre pour une fiction et non pas pour la réalité.
Bien, merci Gilles. Florent peut-être.
Ouais, moi je suis un peu le vilain petit canard dès qu'on parle de Jonas Trueba, parce que je sais que c'est un petit peu un auteur très en vue à l'heure actuelle, hein. C'est quand même 3 films en l'espace de 4 ans, depuis Eva en août, et avec une multiplication de format, donc comme l'avait dit Thomas en introduction, on passe de 3h40 à 1h et des poussières, donc tout juste un long métrage, et donc avec ce dialogue à 4 sur Peter Sloterdijk, donc le philosophe spécialiste de l'esthétique de Karl Schroe dans le très beau land du Bad Württemberg. Donc, et c'est un peu inévitable de penser à ces moments dans Ma nuit chez Maud de Romer, parce que qui était autour de Pascal, où on dissertait jusqu'au bout de la nuit et autour de choses très très complexes. Pour moi, ça fonctionne pas trop, dans le sens où il y avait quelque chose qui se crée entre les personnages, avec une comme toujours chez Romer, sur un fil, c'est-à-dire que n'importe qui d'autre aurait fait le film, ça n'aurait pas fonctionné. Et je trouve que là, on s'en rend un petit peu compte. Et d'autant plus avec ce final dont parlait Gilles, qui pour moi est une manière de pas trop assumer le propos. Je sais pas, c'est cette sortie de la fiction pour déboucher sur ces plans où on voit l'équipe. Alors autant chez Chinias avec la Flore, moi j'aimais beaucoup ce côté-là parce que on était vraiment dans la fabrication d'un film et dans quelque chose de très artisanal. Là je sens plus quelque chose d'artificiel et disons qu'il y a en plus ce côté chez Trueba où il a une capacité à créer des personnages que je trouve agaçants, qui sont très difficiles à suivre. C'était le cas de ces adolescents dans Qui a part nous,
qui jouait déjà sur la frontière entre la fiction et le documentaire.
Voilà, exactement.
Qui faisait rejouer aux adolescents des situations.
On savait jamais trop quand, d'ailleurs. C'est-à-dire que le réel se mêlait à la fiction. On savait pas trop qu'est-ce qui leur faisait jouer, qu'est-ce qui était vrai. Ça crée une confusion qui, moi, me dérangeait pas mal. Et puis, le parallèle entre les deux films aussi qui revient chez moi sur un aspect critique, c'est que, je sais pas, ça, je, Ça fonctionne difficilement, quoi. J'ai vraiment tout le temps l'impression d'avoir quelque chose d'assez toc, d'assez faux, et je sors très vite du film. Et là où j'étais, je suis aspiré chez Romer assez facilement. Là, je suis mis à distance très rapidement.
Margarita, est-ce que je peux compter sur toi pour voler au secours de Jeannette Proueba?
Je pense que oui, dans le sens que je suis plutôt d'accord avec Gilles. Enfin, en fait, moi j'avais vu Eva Anout, que j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas vu qui à part nous. Et je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport au dialogue aussi. En fait, je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est justement, pour moi, les silences, la façon dont... Il s'attarde sur leur visage, surtout dans la scène du début, que j'ai trouvé très belle. Et c'est une façon de nous faire approcher à ces personnages. Au final, c'est un peu comme si nous aussi, désormais, on les connaît d'une certaine façon. Et il arrive à faire ça avec une scène sans dialogue. Et ça, je le trouve assez... ça m'a pas mal touchée. Et même cette dualité entre la réalité et la fiction, je ne trouve pas que ce soit forcé, dans le sens que c'est une fiction qui est dans notre vie de tous les jours, d'une certaine façon. Ils filment ces personnages qui rentrent chez eux et qui s'enlèvent les chaussures, ils s'enlèvent le manteau. Est-ce que ça, c'est la réalité ou on n'est pas nous aussi en train de jouer? C'est ça que j'ai trouvé intéressant, le fait que la fiction peut être aussi dans notre vie de tous les jours, quand on parle avec nos amis. C'est intéressant selon moi cette ambiguïté entre la réalité et la fiction qu'il arrive à transcrire dans ce film. Et aussi dans la partie finale du coup que tu évoquais, Gilles. Avec ces images en Super 8, en fait, ça m'a pas mal... Ça m'a rappelé le film Rien à foutre, dans la partie où
d'Emmanuel Mare et Julien Lecoustre. Que nous avions reçu sur ce plateau, voici bientôt un an et demi, je pense. Un an ? Ah oui, à l'époque de la sortie du film, tout à fait. Pardon, Marietta, je t'interromps.
Oui, surtout dans la partie où il filme, plutôt que le tournage, mais les intérieurs de cette maison. Et sans personne. Et j'avais trouvé la même émotion dans le film Rien à foutre, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il arrive à décrire la façon dont même les intérieurs, les maisons, parlent des gens qui les habitent ou qui ne les habitent plus. Je ne sais pas, il y avait plusieurs petites choses qui m'ont touchée. Mais après, peut-être que c'est très personnel comme... Mais voilà, et même les dialogues entre les femmes dans les films de. Dans Eva Anout, parce que c'est ce que j'ai vu. Je les trouve assez réels, dans le sens que dans Eva Anout, elle parlait de leurs règles. Ici, elle parle de fausses couches. J'ai jamais vu de film où on parle de ça. Avec une naturalité. Je trouve qu'il est quand même un réalisateur qui arrive à écouter les gens et à écrire aussi des dialogues qui ne sont pas faux.
Francis.
Oui, moi je m'inscris plus effectivement dans une adhésion au film. Alors, en fait, il y a une chose que je retiens qui m'avait marqué la première fois que je l'ai vu, puisqu'après j'ai eu la chance de pouvoir le revoir.
En compagnie de Jonas Trueba.
Voilà, avec Jonas Trueba présent pour parler. Alors, effectivement, pour reprendre ce que disait Florent, on lui a beaucoup parlé de Romer et lui, évidemment, n'a pas dit que non. Alors, c'était une évidence, mais quand je l'avais vu la première fois, la toute première fois, ce qui m'avait marqué, comme quoi ça prouve que les critiques de cinéma ne dorment pas en projection de presse, ce qui m'avait marqué, c'était une réplique, justement ce fameux repas très long et très, très bavard, où on échange des points de vue, c'est... Un des personnages, je ne sais plus lequel par contre, qui disait, finalement, on pense végétarien, mais on agit carnivore. Et je me disais, en voyant le film, et peut-être que c'est vrai dans les films d'avant de Trueba aussi, finalement, on a des personnages qui sont en quête, pour moi, d'un îlot de tranquillité. et qui va se manifester de manière différente. Alors c'est effectivement, on part à la campagne, donc let's go to the country, puisque j'ai découvert Bim Callahan grâce à Jonas Trueba, donc on le remercie.
Excellent
aussi.
Excellent morceau.
Tout à fait, et très bel album en plus. Et donc, bah voilà, on part loin de la ville, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, les moyens de communication modernes peuvent le permettre et tout, et en même temps, on n'arrive pas complètement à s'y intégrer si on n'a pas, justement, et ça rejoint les points qu'évoquait Margarita, si on n'a pas d'enfant. Et puis, ceux qui disent, mais moi, j'ai besoin de la ville, de son intensité, de son bruit. Donc, j'ai envie de dire que comme ça, voilà, on est face à des personnages en quête d'îlot de tranquillité, parce que bah, si on part d'une réflexion autour de l'alimentaire, je pense que cette réflexion, en fait, elle peut être étendue. C'est que dans tous les domaines, finalement, de la société, on aimerait que les choses soient douces et que la société nous impose quelque chose de plus prédateur, de plus carnassier. Et en même temps, ça permet de faire une transition vers le cinéma de Jonas Trueba, qui me semble être, et comme d'autres réalisateurs aujourd'hui, la recherche d'un îlot de tranquillité au sein de l'industrie cinématographique. Et j'ai ce sentiment, tu l'as cité dans ta présentation, évidemment, du cinéma de Hong Sang-soo, mais aussi, maintenant, entre autres, du cinéma de Tsai Ming-liang, des gens comme ça. Alors certes...
C'est aussi d'un rapport à l'industrie du cinéma que...
Voilà. Qui mettent en place. Et alors certes, évidemment, on pourra dire oui, mais ce sont des cinéastes. Alors c'est peut-être un peu moins vrai pour Trueba, mais comme le faisait remarquer Florence, c'est quelqu'un qui est à la côte aujourd'hui. C'est des cinéastes qui sont installés dans la cinématographie et la cinéphilie mondiale. Donc ils peuvent se permettre.
Ils commencent à avoir une influence non négligeable dans le cinéma espagnol contemporain.
Voilà, alors. Et les deux cinéastes asiatiques nommés sont là depuis longtemps, donc ils ont installer leur présence. Donc ils peuvent se permettre de faire un pas de côté par rapport à l'industrie, ce qu'un jeune cinéaste ou une jeune cinéaste peut-être aura plus de mal à faire, même si on peut effectivement se dire que dans Rien à foutre, peut-être qu'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre l'ont fait. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve que ça fait vachement de bien. Se dire, voilà, on peut faire des films autrement. Ça ne veut pas dire que le cinéma, je mets des guillemets, industriel n'est pas intéressant, et on va parler de films qui sont beaucoup plus industriels dans l'émission. Mais,
on y viendra tout de suite après. Avec un film aux proportions
dantesques.
Très différentes.
Mais on peut se dire que voilà, il y a des gens qui disent, regardez, on peut encore, même aujourd'hui, où on est dans une espèce de course à la rentabilité, y compris des films, peut-être réussir quand même à faire des choses sur le côté. Alors effectivement, ça demande des sacrifices, et notamment voilà, sur la rémunération, sur la rétribution des gens qui participent. Et c'est évidemment, c'est peut-être le petit point regrettable, mais en tout cas, c'est une porte ouverte aussi. Et je trouve que bah, finalement, c'est une porte ouverte, le film.
Gilles et Florent voulaient chacun ajouter un dernier mot, je crois.
Oui, très court. C'est Francis qui me fait penser à ça quand tu abordes l'histoire de trouver un petit côté cocon dans la vie. Et c'est pas pour rien, je pense, que le film est séparé en deux. Le côté ville est présenté la nuit avec des éclairages artificiels, alors que la campagne, on est dans la nature et tout devient naturel, y compris la discussion et la gestuelle. Et nous voyons la nature dans le jour. Et je pense que cette dichotomie reflète bien ce que tu as dit, Francis. C'est ce que je voulais rajouter.
Florent.
Ouais, moi, je juste pour rebondir sur les propos de Francis, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là-dessus. C'est indéniable que Trueba, c'est quelqu'un qui a des idées et qui développe une proposition de cinéma qui a cet immense mérite de faire quelque chose de différent au sein d'une industrie de plus en plus formatée et de créer sa propre place. Et en ça, je trouve que les parallèles qui ont été faits sont assez justes. Après, c'est vrai que là, il y a vraiment ce côté d'aller chercher un auteur comme Sloterdijk, qui m'interroge, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur les inquiétudes européennes. On est vraiment sur cette question qui est un petit peu le cœur du film, de tourner autour dans un film qui parle beaucoup d'une espèce de post-Covid, de société, justement, parce que quitter la ville, tout ça, c'est au cœur de nos sociétés occidentales qui ont été durablement traumatisées par cette expérience-là, et de vouloir sortir des grandes villes pour ce qu'on peut connaître à Paris, des gens qui vont vers une espèce de migration vers les campagnes pour vivre autre chose. Et alors là, c'est une réflexion totalement personnelle et subjective, hein, j'impose à personne ça, mais quand je vois les préoccupations qui sont un petit peu dissertées à l'écran, alors certes, c'est vrai que dans les détails, c'est très intéressant, mais dans tout ce qui m'est présenté, je trouve ça un petit peu, comment dire, C'est un peu pas frivole, mais ça manque d'envergure, quoi. Genre, si c'est ça les inquiétudes européennes aujourd'hui, je suis pas passionné. C'est un petit peu, voilà, le grand bémol que j'ai vis-à-vis du propos vraiment qui soutient le cœur du film.
Venez voir de Jonas Trueba, c'est donc en salle depuis le 4 janvier. D'ailleurs, je le précise, chères auditrices, chers auditeurs, tous les films que nous évoquons aujourd'hui sont d'ores et déjà à découvrir en salle. Sans transition, effectivement, le film de Jonas Trueba, nous disions à l'instant, a été réalisé pour quelques milliers d'euros. Il n'a pas hésité à le rappeler lui-même au fil des nombreux entretiens qu'il a donnés récemment dans la presse. Nous en venons à un film d'une échelle très différente, Babylone de Damien Chazelle. Hollywood n'aime rien tant que passer en revue les rigueurs de sa légende, instruire son propre procès pour mieux, dans un même mouvement, célébrer son héritage. Le passage au cinéma parlant, notamment, c'était le cas dans Le Chantant sous la pluie de Stanley Donen, probablement en dirons-nous un mot ce matin. Et il y a quelques années, The Artist, le film consacré par le français Michel Hazanavicius à cette même période, lui avait valu un Oscar. Nous sommes donc dans Babylone en 1926. Nellie LeRoy, aspirante actrice, et Manny Torres, homme à tout faire de l'industrie, rêvant tous deux d'une carrière hollywoodienne, se rencontrent à l'occasion d'une soirée. Et quelle soirée ! En un rien de temps, elle va accéder à la célébrité. Lui va devenir l'assistant personnel de Jack Conrad, une star de l'époque. Le rêve ne durera qu'un temps, évidemment. Gros budget pour Chazelle, je le disais, autour de 100 millions de dollars, promotion comprise, et échec considérable aux États-Unis. Je ne fais pas mystère de mon attrait pour son cinéma, un cinéma ambigu et régulièrement cruel, de la difficile coexistence entre vie personnelle et rêve d'excellence ou de succès. L'héros de Chazelle renonce toujours à quelque chose, il fuit le quotidien ou le plancher des vaches, il consente à des sacrifices, tout du moins c'est ce qu'il prétend. Peut-être ne sont-ils tout simplement pas doués pour la vie, peut-être sont-ils mieux sous les feux de la rampe ou dans la solitude des véhicules spatiaux. J'ai quelques réserves en revanche sur ce film-ci, je ne vous le cache pas. Au casting prestigieux, on retrouve Brad Pitt et Margot Robbie, réunis 4 ans après Once Upon a Time in Hollywood, ce n'est bien sûr pas anodin, mais aussi Diego Calva, Jovan Adepo et Lou Jun Lee. Francis Saint, tu as vu le film, c'est également ton cas, Margherita, c'est un duel.
Ah bon, on n'est que deux à l'avoir vu.
Oui, vous n'êtes que deux à l'avoir vu.
D'accord.
Absolument. Non, je ne voulais pas surdramatiser votre opposition, qui peut-être d'ailleurs n'en sera pas une. Et je vous donne la parole dès que tu as fini de prendre des notes, Francis, parce que je vois que tu es toujours au travail.
Bah vas-y, non.
Margherita.
Ok. Bah alors, bah en fait, j'avais très peu d'attentes sous ce film. Et j'avoue que le seul autre film que j'ai vu de Damien Chazelle, c'est La La Land, que j'ai beaucoup aimé. Donc, bon. Et en fait, je trouve que, d'une certaine façon, il s'agit un peu d'une La La Land, mais en version décadente. Dans le sens que, oui, il y a toujours deux personnages qui rêvent de faire partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Mais finalement, en fait, leur vie, leur chemin se croise, mais après ils se séparent. Mais justement, en fait, c'est plus les côtés de la corruption, de tout ce qu'il y a derrière dans cette machine du cinéma qui est montrée. Mais oui, je trouve qu'il y a des parties et des scènes qui ne m'ont pas trop convaincue, que je trouve un peu gratuites. Mais quand même, chaque fois qu'il tombe dans quelque chose qui peut résulter dans des scènes pas trop réussites, au final il se relève toujours. Je sais pas, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre un peu de la mélancolie. C'est aussi grâce à la musique, évidemment. Il y a même des morceaux qui rappellent beaucoup La La Land. Évidemment, c'est Justin Hurwitz, je ne sais pas si je le prononce bien, et son compositeur qui a écrit la musique de film comme dans tous les autres. Et même dans ces cas-là, c'est comme s'il reprend la même mélodie, mais il la transforme en quelque chose de moins rêveur. Et donc, dans ce point de vue-là, je l'ai trouvé intéressant. Et même si, pendant tout le film, je continue à avoir des réserves, au final, la séquence finale, je la trouve assez touchante. J'étais très émue à la fin. Et je dois encore comprendre pourquoi. Dans le sens que d'habitude, je suis plus... J'aime plus les films genre Venez voir plutôt que les films Babylone. Mais en même temps, je pense que voilà, c'est vraiment une déclaration d'amour pour le cinéma. Et, et que malgré tous les pourris, toute la merde qu'il y a derrière, ça commence
mais
d'ailleurs.
Tu fais bien de nommer les choses parce que le film, quant à lui, n'hésite pas à nommer et à montrer les choses. La merde, le vomi, l'urine, enfin, on passe par... voilà, c'est un film qui n'hésite pas à y aller franchement en la matière, c'est le cas de le dire.
Voilà, donc malgré tout ça, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la beauté, de l'innocence et de la pureté qui s'est produit sur cet écran qu'on regarde dans une salle obscure. Et voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus touchée dans Babylone.
Francis.
Malgré tout.
Alors, finalement, mon point de départ, peut-être que pour moi, c'était encore pire que Margarita, parce que d'abord, à chaque fois, les films de Damien Chazelle, je les rate, et je ne cherche pas à les rattraper. Que là, bah, on en avait parlé en préparant l'émission, je t'avais dit, c'est pas un film que je vais avoir la possibilité de voir, donc je ne vais pas le rattraper. Et puis, une après-midi, c'est arrivé, j'avais du temps devant moi, et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais quand même y aller, quoi, et puis on verra bien. On verra bien, 3h09, bon, ben, on verra. Et donc, je n'attendais rien du film. Et en plus, j'y allais à reculons. Et j'avais, par rapport à Damien Chazelle, une méconnaissance totale, même si je savais quel film il avait fait auparavant. C'est vrai que ça a été quand même une espèce de sidération pendant les 3h09, avec des réserves quant à l'excès. Alors effectivement, on en a parlé, hein, cette déflagration sans filtre, attention, super jeu de mots, des fluides animaliers et humains, c'est vrai qu'il faut avoir envie, et ça commence très fort, hein, avec un éléphant, donc effectivement, on n'est pas ménagé face caméra, en plus. Enfin,
donc il s'agit d'alléger le poids.
Voilà, exactement.
Et comment procéder ?
Pour l'alléger. Donc le film entre d'une manière effectivement très crue et plus que sordide. Après, on part, et là Babylone est posée d'emblée, on part pendant une demi-heure quasiment de fête orgiaque chez un producteur hollywoodien. On ne sait plus où on est, ça bouge dans tous les sens, ça part dans tous les sens, et il y a de la dope dans un coin, et il y a de la danse, et il y a comme ça une circulation incroyable dans tout ce film où tous les protagonistes arrivent les uns après les autres, quoi. Ceux qu'on va suivre, quoi, les 4 ou 5 qu'on va suivre. Donc c'est une scène dantesque. À la fois, le film continue ça, et en même temps, c'est quand même se poser par moments, mais effectivement, à des scènes, et on peut peut-être lui en tenir rigueur ou pas, je sais pas, mais à des scènes de virtuosité époustouflante, une scène de reconstitution de tournage, de film avec des centaines de figurants et des combats homériques. Après, effectivement, hommages.
La toute première scène de Parlons. Que doit tourner le personnage qu'interprète Margot Robbie, qui est un morceau de bravoure, je trouve.
Voilà, et qui effectivement fait allusion à cette même scène de placement de micro, de voix qui ne coïncident pas, et d'effervescence de tournage qu'on trouve dans Chantons sous la pluie, qui est quand même le film matrice du film de Damien Chazelle tout au long, quoi. Et qui, dans un final qu'on ne citera pas, parce que là, effectivement, le final est assez saisissant et surprenant. Moi, je ne l'attendais pas, je ne l'ai pas vu venir, un des personnages va assister à une séance de cinéma des années plus tard et découvrir un film qu'on a vu en train de se faire. Donc, il y a une espèce de surméta du film, quoi. Tout ça, après, quand même, pour dire, effectivement, de toute façon, Margarita l'a déjà amorcé, c'est que le film doit énormément, et alors moi, je tiens évidemment à Margot Robbie, mais à Justine Hurwitz. Et si j'étais un peu réservé quand même sur la BO de La La Land, je m'en excuse, là je veux dire, mais c'est une tuerie monstrueuse, quoi. Il a explosé le score, le père Hurwitz. Il a cette espèce de thème, tu parlais d'une musique qui revient, cette espèce de thème, cette ritournelle hyper sauvage au sax, qui est là pratiquement tout le temps dans le film et qui est réorchestrée, mais toujours dans une orchestration très, très épurée, mais rude. Qui est absolument fantastique. Il réorchestre intégralement, il retranspose le boléro de Ravel, où il garde juste la structure du morceau et le tempo et la rythmique de Caisse Claire. Et au-dessus, au-dessus, il met un autre thème. Et la scène est monstrueuse, quoi. Donc, effectivement, on a vu, et ce que tu disais, Thomas, en présentant, c'est un échec à Hollywood, et les Oscars ont bien fait remarquer à Damien Chazelle qu'ils en avaient marre de ce qu'il a dit dans le film. Hein, pas de meilleur réal, pas de meilleur film, pas de meilleure actrice, pas de meilleur acteur. Mais ils n'ont pas pu quand même s'empêcher de dire oui, on va nommer Justin Hurwitz dans les meilleurs musiciens, dans les meilleurs BO, quoi. Voilà, moi je sais que voilà, c'est un film qui est très dense, qui est peut-être très touffu et presque comme un gamin qui voudrait tout mettre dans le film. Justement dans cette scène de fin, on lui a beaucoup dit qu'il avait amalgamé des références et qu'il les avait pas bien digérées. D'abord, il les a digérées comme l'éléphant du début du film, peut-être. Et ensuite, pourquoi il les a pas bien digérées? Oui, alors d'accord, il y a le chien andalou qui a égalité avec Avatar. Ouais, mais pourquoi pas? Après, il y a des films qui n'ont pas marché à Hollywood. Je pourrais dire, pareil, en étant un tout petit Damien Chazelle, que je pourrais considérer au même niveau Citizen Kane et Le Géant de Fer de Brad Bird, parce que c'est deux films qui n'ont pas marché quand Hollywood les a sortis, et qui aujourd'hui sont des films incontournables.
Et pourquoi pas Citizen Kane et Jane Dillman, pour répondre à certains critiques réactionnaires qui se sont récemment manifestés?
Oui, mais complètement. Donc voilà, c'est tout ça. Et juste pour finir, je me suis dit que ce qui serait génial, parce qu'en plus, il y a cette espèce de porosité entre les castings, même si j'ai appris, parce que j'arrête pas de lire des trucs sur le film, pour moi qui m'intéressais pas à Damien Chazelle.
Tu as plongé dans un vortex. Ah, mais c'est devenu ta passion, ta chambre est couverte de posters.
Mais mon téléphone portable, le fond d'écran, c'est Margot Robbie. J'ai réussi à récupérer auprès de Paramount, et je remercie les attachés de presse, la BO du film, qui ne sortira qu'en avril, et je vous la conseille vivement au mois d'avril. C'est une des plus belles BO que j'ai entendues dernièrement. C'est d'avoir comme ça, de faire une séance de 6 heures où on programmerait côte à côte Babylon et Once Upon a Time in Hollywood.
Parce que bien évidemment, il y a un effet de casting qui n'est pas tout à fait innocent. Il y a notamment une scène où Margot Robbie, comme dans Once Upon a Time in Hollywood, se rend dans un cinéma pour assister à une projection d'un film dans lequel elle a joué.
Voilà, donc c'est assez hallucinant, même si j'ai appris depuis qu'au point de départ, elle n'était pas la première actrice, puisque ça devait être Emma Stone pour continuer La La Land.
On aurait pu faire ça. On sait bien que ce qui échappe aux auteurs est ce qui leur appartient le plus.
Voilà. Bon, moi, je me tais. Ce que tu as dit, c'est beau, je ne dis plus rien.
Alors, je précise, avant de vous proposer de faire une petite pause musicale, que moi j'ai tout de même une petite réserve sur un certain point du film, c'est-à-dire le traitement qui est réservé à un certain nombre de personnages secondaires, notamment celles et ceux qui sont censés représenter la condition réservée aux minorités, notamment les artistes et les acteurs afro-américains. Je trouve que les personnages sont moins développés, bénéficient d'une attention insuffisante par rapport à ceux de Margot Robbie et de Brad Pitt, hein, et servent uniquement à illustrer ce point de ce qu'était Hollywood et de ce qu'est sans doute toujours à sa façon Hollywood aujourd'hui. J'aime. Petite réserve là-dessus.
Et en même temps, si on prend le personnage donc du trompettiste...
Oui, je pensais
au
personnage qu'interprète Jovan Adepo, voilà, absolument.
On peut se dire que c'est... Finalement, c'est peut-être le seul personnage qui, peut-être du fait de sa condition et du fait qu'il est mis à l'index, lui arrive à s'extraire de la chose. Quoi. Mm-hmm. Donc, mais je peux te rejoindre effectivement.
Mais qui échappe in extremis à la catastrophe.
Voilà, et qui se dit, à un moment, il faut dire non. Quoi.
Oui.
Hollywood, pas à tout prix. Quoi.
Ouais, justement, je trouve très belle la scène où il est obligé de se mettre la poudre. Ben, ouais. Bon, non, ça révèle rien
c'est une scène de blackface, ouais. Hein, d'une violence extrême, une scène d'humiliation absolue, effectivement, qui est très belle. Ouais.
Mais du coup, oui, justement, c'était intéressant et c'est dommage qu'il n'a pas développé ces côtés-là.
Babylone de Damien Chazelle, c'est d'ores et déjà en salle. Je précise qu'il est fort probable que le mois prochain nous évoquions le très beau de Fablemans de Steven Spielberg. Le film de Chazelle, s'achève dans une salle de cinéma en 1952. Devinez où et quand s'ouvre celui de Spielberg dans une salle de cinéma en 1952. Voyons-y, pourquoi pas, un passage de relais. Nous allons poursuivre en musique, voulez-vous bien, et en deux temps. Je vous propose donc une petite pause avant d'en venir aux deux prochains films de cette table ronde. Thank you. Sur les ondes de Radio Libertaire, vous écoutez Longtemps, je me suis couché de bonheur. Thomas Fou à micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du cinéma pour cette émission consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions le deuxième mouvement du concerto pour violoncelle d'Edouard Elgar, au violoncelle Jacqueline Dupré et à la direction du London Symphony Orchestra, Sir John Barbirolli. Pourquoi ce choix ? Parce que ce concerto est au cœur, parmi d'autres, du film dont nous allons parler à présent. Cinéaste rare, auteur jusqu'alors de deux longs métrages en 20 ans, In the Bedroom et Little Children, Todd Field nous revient avec Tar, présenté en Venise en 2022 et qui a valu à son actrice Cate Blanchett le prix de la meilleure interprétation féminine. En quelques mots, Lydia Tár est une chef d'orchestre mondialement reconnue, bardée de prix, couverte de récompenses et qui, à la tête du prestigieux orchestre philharmonique de Berlin, a sans doute accédé au sommet de sa carrière. Spécialiste de l'œuvre de Mahler, elle espère enregistrer bientôt sa cinquième symphonie, la seule qui manque à son palmarès. Inspirée et inspirante, érudite, passionnée, elle va pourtant voir son univers se fissurer progressivement, car Lydia Tár est également par ailleurs une personnalité ambiguë et autoritaire. Le monde change, son passé la rattrape. Je le disais dans le premier rôle, Cate Blanchett et à ses côtés Noémie Merlant, Nina Hoss et Sophie Cower. Et le film, bien évidemment, est d'ores et déjà en salle. Qui veut ouvrir le bal ? Florent.
Ouais, moi j'avais eu la chance de découvrir le film à Venise en mois de septembre.
Vantard.
Et non, mais j'en parle pour une bonne raison, c'est que donc Todd Field n'avait pas fait de film depuis 2006. Je sais pas, moi personnellement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a tout de suite eu un effet un peu de sidération parce que il y a beaucoup de gens qui regardaient. En fait, c'est pas une fiche Wikipédia de ce personnage tellement il est crédible. Le film commence un peu sur un mode hagiographique avec
dès la scène d'ouverture qui est passionnante, qui consiste simplement en une discussion avec Lydia Tár
et talk show.
On passe en revue son CV, son curriculum vitae.
Où elle expose les grandes lignes de son œuvre, ses convictions sur ce que c'est qu'être chef d'orchestre avec deux FE et d'être un peu l'étendard d'une réussite féminine dans un art très masculin. Enfin, il y a quelque chose vraiment qu'on est à la limite de la géographie. Et ce qui est passionnant dans le film, c'est le point de bascule, ce moment dans cette scène que je trouve assez fabuleuse, où elle se retrouve dans, je crois que c'est à Juilliard, une grande école donc new-yorkaise de musique, et où elle a un affrontement qui commence sur un mode mineur avec un étudiant qu'elle reprend et à qui elle veut essayer de corriger dans sa façon de conduire un orchestre, et où ça devient de plus en plus violent et jusqu'à on peut le dire, une scène d'humiliation de ce personnage qui représente un petit peu une minorité LGBT, enfin quelque chose. Elle pourtant c'est un personnage qui est présenté ouvertement comme lesbien, mais qui se porte en faux par rapport à certaines problématiques exposées par le personnage secondaire. Et à partir de là, elle se fait insulter donc parce que le personnage supporte pas l'humiliation. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de pourrissement du personnage qui fait que tout son univers se désagrège petit à petit, un peu comme si voilà dans les marges on grignotait l'image jusqu'à arriver vers elle et à faire disparaître tout ce qu'on croyait avoir compris de lui, et jusqu'à même son identité. Donc dans la suite du film, on apprend qu'elle n'est pas exactement ce qu'elle veut bien nous montrer, et ça c'est assez génial. C'est parce qu'on pourrait se poser la question du point de vue dans le film, quel est le point de vue justement sur plein de choses, sur la cancel culture, sur énormément de points, et trouver le film un peu réactionnaire à cause du fait que elle est le truchement du spectateur dans cette histoire. Et c'est moins intéressant en fait que tout ce qu'il fait par sa mise en scène, tout ce qu'il arrive à nous présenter, et cette disparition du personnage jusqu'à l'absurde dans son final. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment lumineux.
Gilles, Margarita.
Oui, écoute, moi je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Florent, mais ce que j'ai adoré dans le film, bon d'abord il y a Cate Blanchett elle-même, elle est sublimissime à tous les points de vue, et c'est surtout la présentation qu'il y a du questionnement autour de l'art et de la perfection. C'est-à-dire que c'est une femme qui est dans la perfection, et on se pose la question, c'est est-ce que la perfection sert à servir l'œuvre ou l'hubris de l'artiste ? Jusqu'où on peut mépriser l'humain au nom d'une création. On pense notamment, dans, bien sûr, à l'œuvre Pygmalion, mais à travers ça, à des emblèmes que furent, par exemple, Clouzot, qui était réputé pour maltraiter ses comédiens, ou même Karajan, qui était, pareil, réputé pour être particulièrement dur envers ses musiciens. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé aussi, sur le plan purement cinématographique, que cette introduction dont vous avez parlé, Thomas et Florent, extraordinaire, parce qu'à la fois, au moment de cette interview, on est dans la musicologie, c'est-à-dire qu'on en apprend sur la musique, on est dans l'écriture scénaristique, c'est comment on présente son personnage en le mettant en scène, et on sait beaucoup du personnage qu'est Cate Blanchett à la fin de cette interview. Il y a quelque chose qui est très amusant, c'est qu'elle, elle s'exprime par les notes, la musique, elle s'exprime ici par le verbe, c'est la voix, et en même temps, elle veut lancer un livre qui est l'écrit. Donc, on a cette espèce de dimension culturelle qui s'élargit à toutes les œuvres possibles et que j'ai trouvé absolument magnifique. Et enfin, il y a cette fin qui est très ambiguë. Et là, j'ai trouvé que de la part de Cate Blanchett, qui est donc une des égéries du mouvement MeToo, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'un harcèlement, hein, donc c'est courageux, c'est magnifique et c'est exemplaire. Enfin, moi, je trouve que pour tout ça, j'ai vraiment un amour énorme pour ce film qui dure 2h38. Et en 2h38, j'ai pas quitté une seule seconde l'écran. Voilà.
Margarita.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je viens d'aimer le film. Je trouve que, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont il arrive un peu à retranscrire cette tension qu'il y a dans la musique, dans le film. Enfin, c'est toujours une question de temps. Dans la scène initiale, elle parle du fait que le temps est la chose la plus importante. Et en même temps, je trouve qu'il y a toujours un rythme et une tension dans le film qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il doit se produire quelque chose de surnaturel. Enfin, et au final, ça ne se produit pas, mais du coup, ça reste plus dans son dans le côté psychologique. Et du coup, je pense que c'est vraiment la qualité que j'ai le plus appréciée du film. Et après, évidemment, la performance de Cate Blanchett est incroyable. Je pense qu'il arrive à aborder beaucoup de questions qui concernent notre époque, mais sans trop vouloir le faire de façon assez subtile. Et même le fait qu'elle est filmée par ses téléphones, on ne comprend pas. Elle est comme si elle était toujours... le point de vue du spectateur est aussi celui de quelqu'un qui l'observe d'une certaine façon, quand elle est chez elle ou quand elle est dans la chambre de son hôtel. Il y a toujours des plans, on la voit plutôt par un angle qui ne serait pas normalement l'angle selon lequel... Et du coup, oui, je le trouve très intéressant. Et même dans les parties où le rêve se mêle un peu à la réalité. Et donc, oui, voilà. Et je ne sais pas, en fait, il m'a rappelé un peu, je ne sais pas si ça a vraiment une connexion, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé tout le temps à Personnage Chopper de Olivier Assayas.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et voilà. Ouais. Donc, mais justement, dans ce film-là, je n'avais pas aimé le côté plus de fantôme, que je trouve...
qui est moins appuyé.
Qui est moins... oui, voilà.
Qui est beaucoup plus allusif. Oui, tu voulais ajouter quelque chose et puis je passerai la parole à Francis.
Ah, pardon. Non, c'est juste pour aller dans le sens de Margarita aussi, qui est montré dans le film, c'est les décors et les lumières en harmonie avec le personnage de Cate Blanchett. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle est livrée à elle-même, elle est dans un endroit où, qui est très froid, où le décor est gris, noir ou bleuté. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à imaginer un décor qui reflète la psychologie du personnage, et je suis tout à fait d'accord avec ça, avec ce qu'a dit Margarita. C'est tout ce que je voulais rajouter.
Francis.
Alors, là, j'avais une chance, par rapport à ce que disait Florent, je savais dans quel sujet j'allais, et je me disais, chef d'orchestre, monde de la musique classique, allons-y. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner après, moi je... Et la première chose sur laquelle j'ai envie d'insister, surtout ayant vu un très mauvais film sur le monde de la musique classique, que je citerai quand même, qui est un film français qui s'appelle Maestro, avec Yvan Attal et Pierre Arditi, parlons d'un film qui a une description du monde de la musique classique, enfin d'une force, d'une vigueur et d'une véracité incroyable. Quoi.
Oui, le film ne se contente pas d'instrumentaliser son univers pour développer son propos. Il le traite.
Ah oui,
ce monde de la musique classique.
Mais complètement. Et moi, j'étais fasciné par ça, quoi. Dans un premier temps, parce que on a vraiment une plongée comme ça dans l'univers d'une chef d'orchestre et dans ce milieu de la musique classique. Sont très bien montrés les rapports entre la chef d'orchestre et son premier violon, qui se trouve être sa compagne, mais aussi avec le représentant, le clarinettiste, qui est le représentant syndicaliste des musiciens. Enfin,
les rapports entre générations, qu'est-ce qu'on fait des chefs d'orchestre vieillissants? Est-ce qu'on leur offre des fonctions honorifiques? Est-ce qu'on s'oblige à déjeuner avec eux une fois de temps en temps?
Voilà, et qu'est-ce qu'on fait des jeunes aspirantes instrumentistes qui arrivent et qui sont violoncellistes? Est-ce qu'on les favorise pour peut-être... en sous-texte, mais c'est pas complètement sûr, mais bon, obtenir une certaine faveur. Tout ça est là, et je dois dire qu'il y a un endroit qui est passionnant dans le film. C'est même étrange que l'allemand, puisqu'à ce moment-là, en plus, elle parle en allemand avec ses musiciens, puisqu'on est à Berlin, hein, et que ça soit pas sous-titré. Alors, on ramène tout ce qu'on sait de la langue allemande pour essayer de tout comprendre, et ces scènes de répétition d'orchestre, elles sont extraordinaire, quoi. Et la gestuelle de la direction d'orchestre, moi je pouvais pas m'empêcher dans cette gestuelle à la fois emphatique et très sèche de voir une chef comme Barbara Hannigan. Je trouvais, alors que bon, on dit qu'elle s'est plus inspirée de Marina Alsop, qui d'ailleurs a beaucoup de griefs envers le film, mais je sais pas, il y a comme ça une présence à la Barbara Hannigan. Donc tout ça, je trouve fascinant, parce que en plus, comme le film est effectivement lui aussi très long, on prend vraiment le temps, quoi. On est dans le monde de la musique classique et petit à petit, on va aller vers quelque chose qui se désagrège et vers cette scène, mais alors fabuleuse en termes de cinéma, qui est la scène à la Juilliard School et cette opposition entre Lydia Tarr et cet étudiant autour d'une cristallisation qui va que l'étudiant dit « Moi, aujourd'hui, je ne veux diriger que des auteurs contemporains parce qu'ils sont en liaison avec mon époque et avec mon mode de pensée. » Et que, par exemple, je refuse Bach parce que je refuse ce qu'était Bach dans la vie, ayant fait 20 enfants à sa femme. Et donc, le conflit part de là, entre deux. Et on découvre à un moment, parce qu'en plus, il y a des mouvements d'appareil et tout, d'un seul coup, on se rend compte que c'est un plan séquence. Et que, dans un premier temps, moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça devient fascinant en termes de cinéma, parce que je pense que Todd Field la pose une question. Quand on revoit plus tard, et on peut le dire, c'est pas du tout grave, qu'elle va être accusée, effectivement, de harcèlement, d'emprise. On voit sur un téléphone portable, en fait, un montage de cette scène. Et d'un seul coup, on voit ce que peut faire l'image. De positif comme de négatif, mais l'image, c'est forcément un parti pris. Et que si je veux une image à charge, je monte sur les éléments qui vont me permettre de, notamment un geste, elle met à un moment sa main sur la jambe du jeune homme. Dans le film, on sait pourquoi elle met, parce qu'elle veut stopper quelque chose. Quand on le revoit après, c'est une tentative de séduction. Et je trouve le film fascinant aussi par rapport à ça, et pour finir et parler du point de vue qui parfois est un petit peu flou, enfin en tout cas ambivalent, instable, c'est dans cette dernière partie du film, donc c'est la déchéance pour elle est en Thaïlande, elle reste une chef invitée, mais donc on l'emmène visiter le pays, et à un moment il y a une halte, elle a deux guides, un jeune garçon et une jeune fille. Et on voit d'un seul coup le garçon et la fille en train de se baigner, de jouer ensemble dans l'eau. C'est une petite mare comme ça devant une cascade. Et contre-champ, on est de l'autre côté de la cascade et d'un seul coup, tapis dans l'ombre de la roche, on voit Lydia Tarr qui observe les deux adolescents qui sont de l'autre côté de la cascade. Et à ce moment-là, en plus, elle est de dos par rapport à la caméra, donc on n'a pas son expression de visage. Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui maintenant est réclus du monde et s'est extrait parce qu'elle n'a plus le droit, ou est-ce qu'on voit un prédateur qui attendrait le moment opportun pour aller sur sa proie? On ne sait pas, et on ne sait pas ce que, à ce moment-là, Todd Fields lui pense. Et cette ambiguïté fait qu'on se questionne. Et moi, je n'ai pas arrêté de me questionner depuis et de lire. Alors, c'est encore pire que pour Babylone, de lire à droite et à gauche et tout ce qu'a dit Marina Alsop, disant c'est scandaleux. Il y a des hommes, chefs d'orchestre, qui ont exercé leur emprise, James Levin, Charles Dutoit, et on montre forcément une femme, qui plus est lesbienne. Donc, il y a plein de questionnements autour du film. Et c'est aussi pour ça que je trouve, à la limite, très passionnant.
Le film est donc en salle depuis ce mercredi 25 janvier. Nous en venons maintenant à Rewind and Play, le nouveau film d'Alain Gomis, auteur entre autres d'Aujourd'hui et de Félicité. Nous sommes en 1969, de passage à Paris, Thelonious Monk a été invité à participer à l'émission de télévision Jazz Portrait. À l'animation, Henri Renaud, lui-même pianiste, je le précise à l'intention des néophytes, car si le film en dresse un portrait à décharge, et à juste titre évidemment, Renaud n'en est pas moins une grande figure du jazz d'après-guerre, qui a joué notamment avec Max Roach, les musiciens de Lionel Hampton ou encore Sarah Vaughan. Mais cela étant dit, revenons-en au film. L'émission en question a donc été diffusée, on y voit Monk répondre brièvement à une poignée de questions, interpréter quelques morceaux. Mais Alain Gomis, lui, est allé regarder dans les rushs pour en tirer un film tout à fait différent. À partir de ce qui n'avait pas été monté, il montre qu'en réalité, rien ne s'est passé comme prévu. On assiste à un long moment de gêne et de solitude. L'insistance et l'indélicatesse de l'un, Henri Renaud, le mutisme de l'autre, Thelonious Monk. De toute évidence, l'incompréhension entre ces deux-là et le dispositif télévisuel mettent à jour des rapports de domination aux multiples entrées. Le film est en salle. Qu'en avez-vous pensé ? Margarita.
Ok. En fait, je trouve que ce travail de montage est très intéressant, mais en même temps, je le trouve un peu ambigu, dans le sens que lui, il a utilisé des images qui ne sont pas les siennes, en fait. Il a réutilisé des plans, enfin, par exemple, les gros plans sur le visage de Thelonious Monk, qui sont magnifiques, mais en même temps, on se demande, est-ce que ces plans ont été utilisés pendant l'émission. Enfin, c'est toute une question de contexte dans lequel ils sont utilisés. Parce que s'ils avaient été utilisés pendant l'émission, alors ils résultent assez gênantes, dans le sens que c'est quand même quelqu'un qui s'est permis d'aller si près de lui pour montrer son effort, sa fatigue, pour montrer ses personnages. Mais dans le film d'Alain Gomis, c'est quelque chose de très touchant et qui parle plus de l'émotion qu'il éprouve en jouant. Et donc, je le trouve en même temps très, très intéressant comme travail, mais aussi un peu ambigu. Enfin, même parce que je n'ai pas vu l'émission originale, donc je ne sais pas en fait ce qui a été utilisé et ce qui n'a pas été utilisé dans cette émission-là.
Alors je le précise, chers auditrices, chers auditeurs, vous pourrez sans doute faire la comparaison vous-même, puisque si vous allez voir le film, vous pourrez par la suite découvrir sur le site de l'INA l'émission en question. Je pense qu'elle est disponible, je crois qu'elle l'est toujours en tout cas. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, pas de problème. Et en même temps, c'est aussi le fait que... c'est justement un peu le même discours de est-ce qu'on peut diviser l'œuvre de l'artiste, donc la médiatisation de ce personnage et au final ce qui ressort des questions de la personne qui l'interviewe, en fait c'est plus les côtés du personnage qui l'intéressent, alors que lui-même il est un musicien, donc c'est ça qui est bizarre aussi, dans le sens que au final je l'ai trouvé assez bizarre, assez gênant, cette partie-là. Mais justement, utilisé dans un documentaire qui veut montrer ces images, ça prend une autre signification. Mais en même temps, je m'étais jamais posé la question, est-ce qu'on peut faire un film avec juste en montant des images de quelqu'un d'autre pour montrer à quel point c'était pas approprié ce qu'il a fait. Il y a quand même les scènes où il joue qui sont magnifiques.
Et sur lesquelles, effectivement, se conclut le film.
Et sur lesquelles se conclut le film. C'est un peu comme s'il lui redonne la parole à travers cette image.
Gilles, je crois savoir que tu as beaucoup aimé le film.
Moi, j'ai adoré, mais j'ai adoré le discours du film. C'est un film qui sépare ceux qui aujourd'hui font le spectacle, je pense à certains animateurs que je ne citerai pas pour pas toucher à mon poste en rentrant, ou à certains politiques, et créent un spectacle. Et tout le discours est entre Henri Renaud, mais qui n'était pas prévu pour être journaliste, d'après le dossier de presse. Donc c'est à sa décharge, qui s'est retrouvé à interviewer Thelonious Monk, alors que c'est pas son métier. Et du coup,
ça reviendra par la suite,
Pardon.
Ça le deviendra par la suite, ça deviendra un homme de radio, de télévision,
d'accord.
Par la suite, d'une façon plus régulière en tout cas.
Voilà, et qui reprend ce que vient de dire Margarita, c'est-à-dire qu'on a d'un côté quelqu'un qui était en plus fatigué, qui arrivait d'une tournée, qui était âgé, qui se retrouve à être interviewé, et qui n'est pas prêt à ça, Et puis, toute une machinerie qui est la machinerie télévisuelle et qui, pour moi, là, passe à la moulinette. À un moment, un des techniciens dit « on s'en fiche qu'il soit trompé, ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression d'être en direct ». Et je trouve que ce discours du film qui se dégage, et ça dure qu'une heure dix, hein, donc c'est extraordinaire, qui se dégage est formidable. C'est-à-dire qu'il y a les créateurs et il y a les fabricants. Et quand on regarde ce film avec ce regard-là, on a un regard sur notre époque qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a une superficialité qui utilise à l'usure quelqu'un qui, lui, n'en peut plus. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et en même temps, il faut rappeler que ce film est bien fait parce qu'on n'est pas simplement dans un studio de télé. On le voit arriver, il y a des extérieurs, on le voit avec sa femme. Et voilà, c'est ce que j'ai profondément aimé.
Dans la civette du moulin, caresser voilà, un petit chien.
Exactement, dans le 18e arrondissement.
Mais oui.
Et je trouve
que... Ce sont des adresses que d'aucuns connaissent.
Voilà, et on a d'un côté l'humilité de l'artiste qui crée, qui est fatigué, et de l'autre côté la fatuité de celui qui interview. Et encore une fois, je ne citerai pas Henri Renaud comme étant emblématique de ça, puisque ce n'était pas voulu, mais je pense que c'est ce qui se dégage, le discours, c'est ce que j'ai aimé du moins de ce que j'ai compris du discours du film. Voilà.
Florent.
Moi, je rebondirais sur ce qu'avait dit Margarita tout à l'heure, que je trouve que c'est le bon questionnement, en fait. Que c'est vrai que quand on connaît Alain Gomis, notamment Félicité, c'était un film, on est dans la fiction, voilà, on est au Nigeria, on est dans un film qui est écrit, pensé assez traditionnel. Et là, on
très
est
musical
un...
d'ores et déjà.
Déjà très
musical. Avec le renfort de Casey All-Stars, d'Arvo Pärt.
Mais on est vraiment sur un travail qui est, je trouve, un petit peu old school, dans le sens où ça fait penser à ça montre bien qu'un film, ça naît au moment du montage. C'est-à-dire qu'avoir des rushs, avoir des heures de, ça ne fait pas cinéma. C'est vraiment le montage qui crée le film. Et c'est un exercice un peu qu'on pouvait retrouver, alors je cite toujours les mêmes personnes, mais c'est Chris Marker était quelqu'un qui faisait beaucoup ça. C'est-à-dire, il prenait les images tournées par d'autres, notamment dans des usines, et qui ensuite faisait film par le montage, et qui arrivait à exprimer quelque chose. Et c'est exactement ce que fait Gomis, c'est-à-dire qu'il prend pratiquement par hasard, il tombe sur ces images et il en fait quelque chose. Et c'est vrai que, alors là, j'ai des grands mélomanes autour de moi à la table, mais on peut ne même pas connaître la musique de Monk et être fasciné par la façon dont il se dégage quelque chose de ce personnage, par son mutisme, par sa difficulté à s'exprimer. Je crois que même au-delà de la fatigue, c'est quelqu'un qui s'exprimait peu, c'est quelqu'un qui n'était pas connu pour être volubile dans les discussions. Et on a véritablement ce sentiment de malaise qui se dégage, et la façon dont on fabrique une espèce de boîte noire de la fabrication d'une émission, la répétition, la boucle, la façon dont on a l'impression que Monk est piégé dans cette boucle, et qui sont avec juste des moments de respiration qui émanent de la musique elle-même. Et quand on connaît pas, on n'est pas un adepte de jazz, qu'on n'est pas surtout que là on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimental, enfin de ces particuliers qui peut être assez éloigné du spectateur moyen, comme moi par exemple. On finit par être charmé par ces notes de musique aussi, parce qu'elles nous permettent de prendre une distance avec cette image suffocante. Et ça, c'est vraiment une très très grande réussite, je trouve.
Francis,
C'est intéressant, tout ce questionnement sur le montage. Et je serai bref, mais pour moi, ça rejoint l'idée dont on parlait juste avant sur Tar, du montage dans le film, du plan séquence qu'on a vu avant. Je dis juste ça pour mettre un petit peu de décharge quand même envers Henri Renaud, parce qu'il est vraiment présenté là comme un abject personnage. Et je me dis, c'est un peu exagéré de la part d'Alain Gomis, et en même temps on voit que dans le dossier de presse il explique que c'est lui aussi, il est pris dans quelque chose qui le dépasse, et à la limite ce que évidemment dit Gilles, c'est lui aussi il est pris dans la machinerie de la conception de l'émission de télé, et il doit faire avec ça quoi. Donc il est un petit peu coincé lui aussi, et finalement la musique qui pourrait les rassembler, puisqu'ils sont tous les deux musiciens, même si l'un n'est pas forcément le même génie que l'autre, eh ben en fait, ça les éloigne, quoi. Et de ce côté-là, effectivement, peut-être que dans les parties prises de montage, et donc dans le point de vue d'Alain Gomis, c'est des choses qu'on sent pas beaucoup, quoi. Et le seul moment où ils parlent de musique, finalement, ensemble, c'est quand Monk dit « Non, mais moi, j'ai été le moins bien payé des musiciens sur le festival. » Et que s'il est venu à ce festival, c'est parce qu'Henri Renaud a agi pour qu'il vienne. Et Henri Renaud lui dit « Non, mais ça, on n'en parle pas, quoi. » Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes.
Il ne le dit même pas à lui, pardonnez-moi, ma langue a fourché. Il le dit au technicien, on va pas la garder, celle-là, c'est pas très gentil ce qu'il a dit, c'est pas correct.
Donc,
comme s'il n'existait pas, en fait. Enfin, ouais. Plusieurs fois dans les films, c'est comme lui, il n'existait pas. Mmh. Juste parce qu'il
s'adresse en français à ses techniciens, et qu'a priori, Télonusmont ne parle pas français.
Ouais. Voilà, c'est tout ça. Et donc, voilà, c'est, après, effectivement, c'est un film... que je trouve très intéressant pour suivre Monk dedans, qui tout le monde a parlé de son mutisme, mais en même temps moi je trouve que sur certains des gros plans on a l'impression qu'il est goguenard par rapport à ce qui se passe, quoi. Il se dit bon allez, on va passer à autre chose. Et tu parlais de l'introduction du film, effectivement, en dehors du fait que c'est presque une introduction sur la trace d'un Paris disparu, quoi. Je trouve que quand on le voit dans ce café, justement, où il se préoccupe du petit chien, où il regarde le cette personne qui est avec lui qui mange des œufs durs au comptoir, un truc qu'on voit pratiquement plus, quoi, on sent d'un seul coup qu'il est là, tranquille, quoi. Il y a cette tranquillité qui s'exprime. Et justement, le film met bien ces deux éléments côte à côte pour dresser un portrait peut-être moins de musicien, comme disait Florent, expérimental et perdu dans les limbes, et un musicien finalement du cœur aussi, quoi.
Rewind and Play d'Alain Gomis, le film est en salle depuis le 11 janvier. Je vous propose justement à présent une nouvelle pause musicale en compagnie de Télonews. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission.
Mais les braves gens n'aiment pas que l'on...
De retour sur les ondes de Radio Liberté, à vous écouter longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma pour cette émission consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions ou nous tentions d'écouter le sobrement intitulé Télonews de Télonews Monk, l'ouverture de son album Underground, album mythique évoqué justement dans Rewind and Play. Nous sommes alors en 1968, veuillez nous excuser pour ce souci technique. Nous en venons au film suivant de notre table ronde, Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est donc le nouveau film d'Alain Huguetto, près de 10 ans après le très beau Jasmine. Il y évoque en stop motion la vie de ses aïeux italiens, et plus particulièrement celle de ses grands-parents Luigi et Cesila. La misère de la paysannerie italienne au début des années 1900, la montée du fascisme, les guerres coloniales et mondiales, l'exil en France, le racisme, c'est tout un demi-siècle d'histoire que balaye le film. Huguetto s'y met lui-même en scène, non seulement en tant que narrateur, mais aussi dans le plan, en s'imaginant dialoguer avec sa grand-mère, interprétée par Ariane Ascaride. Le film est en salle, je précise qu'il est reparti du dernier festival d'Annecy, où nous nous trouvions, Francis et moi-même, d'une part avec le prix du jury, d'autre part avec le prix de la Fondation Gannes pour la diffusion. Francis, j'ai envie de te donner la parole. Je sais que tu aimes le cinéma d'Alain Huguetto.
Oui.
Et que tu es... notamment un grand fan de Jasmine, son précédent long métrage.
Tout à fait. Moi, je pense que Jasmine est un des plus beaux films des décennies 2000 et au-delà même du cinéma d'animation. J'ai juste envie, du coup, en fait, de resituer par rapport à Jasmine en quelques mots, qui était donc déjà un film autobiographique, donc un documentaire animé, comme on dit parfois, mais qui tient de ce côté journal intime, qui racontait au moment de la révolution islamique une histoire d'amour, celle d'Alain Huguetto, pour une jeune femme iranienne. Et ce qui était brillant dans ce film, qui a eu un accueil très mitigé, maintenant tout le monde dit que c'était génial il y a 10 ans, mais il a eu un accueil très mitigé au Festival d'Annecy, une sortie salle qui malheureusement lui a pas fait rencontrer le public. Ce qui était absolument brillant, c'est qu'il arrivait à recréer, alors avec des moyens très dérisoires, sur ce film-là, il était tout seul aux commandes du film, et il a travaillé à Marseille, dans un théâtre, et il a recréé avec des blocs de polystyrène et des éclairages rasants, Téhéran. Et une bande-son vraiment très, très bien travaillée, et il y avait comme ça une espèce de sentiment de pénétration dans la réalité iranienne. Et ce qui était très beau, effectivement, c'est que là, il travaillait en pâte à modeler. Ici, on est donc avec des personnages qui sont des marionnettes. Il y avait cette présence des mains, cette présence de l'artisan du cinéma d'animation en train de modeler ces personnages comme eux-mêmes étaient modelés par les sentiments qui les animaient. Et en passant comme ça sur un film avec une production plus ample, là il y a un studio, il y a des coproducteurs, il a travaillé avec des équipes, j'avais une peur, c'est qu'il perde ce qui faisait à mon sens sa force, et en fait c'est toujours là, les mains sont toujours présentes, et d'autant plus magnifiquement, bellement, j'ai presque envie de dire, parce qu'on va évoquer une lignée d'artisans, et que de ces son grand-père, son père artisan sur des chantiers, lui ben il est un nouvel artisan, et c'est un artisan du cinéma d'animation. Donc moi, je n'ai qu'une chose, je vois que là, le film, et on en parle partout, il a des critiques plutôt très élogieuses. Moi, je suis ravi pour Alain Huguetto.
Florent.
Oui, d'autant plus que c'est un parcours complètement incroyable. C'est quelqu'un qui doit être né dans les années 40, si je dis pas de bêtises, et qui en est à son deuxième long métrage, on dirait seulement, mais quand on voit, comme disait Thomas, c'est un travail au long cours, et qui a été quand même César du meilleur film court-métrage d'animation en 1985, donc c'est quelqu'un qui a fait tout autre chose par la suite. Je crois qu'il a été journaliste, documentaliste pour la télévision, enfin, et qui est revenu à l'animation dans les années 2000. Il y a vraiment ce côté artisan qui est fascinant, effectivement, là, le travail des mains, tout ça, et qui en plus est toujours dans un espèce d'amour au sens propre, amour pour le cinéma, et qui là investit la thématique de la migration, je trouve, une migration donc professionnelle par le biais de ses grands-parents, qui a un écho particulièrement fort, je trouve, par rapport à aujourd'hui, et qui dégage encore une fois énormément d'amour pour le territoire, d'amour pour familial, et vraiment sublimé par ce stop motion magnifique à base de marionnettes. C'est vraiment un très très beau film. Ouais.
Gilles.
Oui, moi ce que j'ai aimé, c'est encore une fois le discours et le fond du film aussi, en plus de tout ce qui a été dit, et notamment cette phrase de Chezira à la fin, « On n'est pas d'un pays, on est de son enfance ». Et j'ai trouvé que cette phrase est sublimissime, et elle est très bien illustrée par ce film. On a parlé d'artisanat, mais les plus anciens se rappelleront de ce dessinateur qui s'appelait Cavandoli, et qui avait créé un film d'animation qui s'appelait La Linéa. On voyait sa main qui dessinait un bonhomme qui était toujours en train de l'engueuler. Et il a repris un petit peu ce style-là pour mettre sa main en train de créer son univers. Donc un brocoli va faire un arbre, du charbon de bois va faire la montagne, un sucre va faire une brique. Et il est en autodérision avec sa propre création, puisque par exemple à un moment les miliciens arrivent, disent non, ils peuvent pas être responsables parce que regarde, cette vache, c'est pas une vraie vache. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est-à-dire qu'à la fois on a un discours entre le créateur qui crée son monde, hein, on pense à la jeunesse par exemple, Et puis la création elle-même qui prend sa propre indépendance tout en étant soumise à, sa, à son créateur. Et je trouve ça magnifique. Et en plus, ce qui est au-delà de tout ça, c'est tout le regard qu'il pose sur la transmission et l'héritage. Il rappelle qu'un outil, c'est-à-dire en l'occurrence celui de son grand-père, c'est une vie. La vie de son grand-père et de sa famille. C'est aussi des gestes, ceux que son père exerçait avec cet outil, et qu'il est l'héritier de tout ça. Et je trouve que ce regard qu'il porte, alors, sur ce que l'on transmet de génération en génération, est touchant, émouvant, drôle, sublime, sans oublier, bien entendu, que c'est un, comment, je dirais, un thésaurus magnifique pour tous les émigrés, ou les immigrés, comme on voudra, du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas que les Italiens. On peut retrouver les Polonais, on peut retrouver les Africains aujourd'hui. C'est vraiment une anthologie de tout ce dont sont porteurs, ceux qu'on aime bien voir arriver parce qu'ils vont nous être utiles et qu'on rejette quand on est un petit peu touché dans son égoïsme. C'est vraiment un film qui est porteur d'un, à la fois d'un message et d'une beauté esthétique rare.
Et l'histoire des Espagnols, évidemment, qu'on a rejeté avant même de les avoir accueillis. Pour renvoyer à Joseph, dont nous avions parlé sur ces mêmes ondes il y a 2 ans. Francis, tu voulais ajouter un dernier mot ?
J'ajouterais juste, parce qu'on n'en parle pratiquement jamais, c'est que, quand même, le film est aussi bourré d'humour, et notamment par rapport à toute cette espèce de filiation, d'inspiration qu'il a avec un film comme Panique au village, où les éléments du décor, effectivement, deviennent aussi des éléments de narration un peu dérisoire.
J'ai un dernier mot très très vite.
Oh, très vite, c'est juste aussi pour ajouter que l'usage du temps qui passe, comment il utilise les objets qui sont arrivés. On voit arriver petit à petit l'électricité, la TSF, le Tour de France, les 30 Glorieuses, uniquement par des petits objets. C'est jamais dit dans le texte et je trouve ça magnifique. C'est vraiment de l'animation.
Interdit aux chiens, aux Italiens, c'est donc en salle depuis ce mercredi, dans trop peu de salles, je crois le savoir. Et nous en venons au dernier film de notre table ronde. C'était une information donnée par Margherita en antenne. Les Rascals, c'est donc le premier long métrage de Jimmy Laporal Trésor, remarqué notamment pour son court métrage Soldat Noir, sélectionné en 2021 chez les Amis de la Semaine de la Critique, mais n'y voyez aucun favoritisme. Non, sincèrement. En quelques mots, nous sommes en région parisienne en 1984. Rudy, Rico et leur bande, jeunes adultes d'origine diverse, se retrouvent aux prises avec le GUD et l'ultra-violence d'extrême droite. Jeunesse en marge, moins par choix que par la façon dont la France l'y a acculé. Explosion de la mouvance skinhead, effondrement des structures historiques, parti communiste en tête. Le film se montre le plus complet possible dans son évocation de l'affreux paysage politique du mi-temps des années 80 et compose au passage, ce n'est pas pour me déplaire, un digest de la pop de l'époque entre dernier feu du punk rock, avènement du hip-hop et revival rockabilly. Au casting, Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Angelina Vorette et Victor Meutlet. Le film est en salle depuis le 11 janvier. Est-il utile de rappeler un dernier mot avant de vous donner la parole, l'actualité du sujet, l'abominable GUD que j'évoquais à l'instant, le groupe Union Défense, qui ces dernières années s'était fondu dans divers groupuscules fascistes, a été reformé il y a quelques semaines. Qui a vu Les Rascals ici, qui souhaite en dire un petit mot ?
Oui.
Florent.
Moi, c'est un film que j'ai plutôt aimé, même si évidemment on peut prendre certaines précautions, parce que il est loin d'être totalement abouti. En même temps, je crois que c'est un premier long métrage.
C'est son premier long métrage.
Ce que j'aime, c'est cette volonté d'une certaine génération de nouveaux metteurs en scène de représenter certaines choses à l'écran qui sont un petit peu avec des sujets avec lesquels on a un petit peu de mal en France. On parle très mal et très peu de la guerre d'Algérie d'une manière générale, et on parle très mal et très peu quelque part de l'apparition depuis les années 60 de certaines cités, d'une forme de combat entre des camps qui se profilent dans le film. On voit une bande le titre, comme le dit le titre, Les Rascals, qui est très cosmopolite, où on voit un petit peu toutes les origines territoriales, sociales qui se composent à l'écran.
Un enfant d'Antillais, un enfant d'Algérien, un enfant de Cambodgien, cambodgien, si je ne m'abuse.
Et c'est peut-être un peu la première fois que on est vraiment dans la naissance de ce qui sera le mouvement Antifa par la suite. Et alors on pourrait reprocher au film d'être pas assez politique et d'être mais quelque part son propos, il est avant tout de montrer une bande d'amis qui se constitue et qui par la force des choses se retrouve confronté à un truc qui fait un petit peu froid dans le dos. C'est de se rappeler que tout à l'heure Francis parlait d'un Paris qui n'existe plus pour la fin des années 60 avec Monk. Là on est aussi dans un Paris alors pas forcément qui n'existe plus, mais on se rend où il y a quand même les skins nazis au cœur de Paris, avec des bars, pignons sur rue, avec une violence qui est quand même un petit peu moins présente, même si elle se profile un petit peu dans les catacombes aujourd'hui, a tendance à rejaillir. On est dans un affrontement entre deux factions qui se montrent. C'est vraiment très frontal. Et j'ai plutôt aimé ça. J'ai aimé cette envie de représenter ça, de montrer comment c'est cette génération-là, en fait, a dû s'affirmer, peut-être politiquement, a dû s'affirmer dans la toute fin du film, vraiment contre quelqu'un, alors qu'au départ, ils sont juste là pour faire la fête entre potes et avec le côté musical, aller dans les clubs, ce genre de trucs. Et... On a vraiment cette jeunesse qui s'affirme dans ses marges et qui finit avec quelque chose d'extrêmement électrique où le but de ces personnages là c'est d'affronter quelque chose qui parce qu'il faut quelqu'un en face quoi
et oui, il y a cette idée que la violence est à la fois une impasse et la seule solution
un peu comme le Black Panther Party l'avait dit à l'époque aux États-Unis dans les années 60 où on est dans l'autodéfense. Il y a vraiment cette idée là et Même malgré les défauts du film, je trouve que le propos est assez finement porté et au niveau de la dramaturgie, du rythme, c'est plutôt pas mal, ouais.
Francis,
je rejoins évidemment ce qui a été dit. Moi, j'aime beaucoup le film et j'aime beaucoup justement ce film sur ce qu'il montre de la collusion entre le Front National et justement les mouvements skin et donc l'ultra-violence.
Alors, il convient de rappeler que c'est aussi l'année où le Front National obtient ses premiers sièges au Parlement européen.
Voilà, et je trouve que le film a cette espèce de nécessité aujourd'hui où le Front National devenu Rassemblement National s'offre effectivement un toilettage et dit que tout ça est très loin de lui, et non, presque n'a jamais existé. Et ce que je trouve que le film met bien côte à côte, c'est effectivement ces skinheads ultra-violents. Il y a des scènes quand même qui sont d'une...
très éprouvante. Je pense à une scène d'agression de couleur d'affiche qui est particulièrement éprouvante.
Tout à fait. Et en même temps, on a un personnage comme ça de politicien qui est un prof de droit à Assas. Donc on replonge dans cette fameuse fac qu'on aime tous. et qui, donc brillamment interprété par Guillaume Marquet, et qui montre lui le discours policé, le discours qui peut s'adresser aux médias, et justement la fin du film nous le montre parlant à la télé, et on est vraiment dans cette espèce de surface qu'on essaye de ménager pour dire, vous voyez, on n'est pas dangereux, puisque on a une analyse sur l'immigration qui est tout à fait juste, sauf qu'après on a évidemment des propositions qui sont complètement fausses, c'est-à-dire que voilà, on a les bonnes causes mais on a les mauvais effets, et donc ça c'est assez brillant. Et en même temps, alors je vais insister juste sur ce point rapidement, je trouve que on parlait d'écriture du film, je trouve qu'il y a dans l'écriture du film quelque chose qui est formidable, très brillant, c'est l'écriture du personnage féminin interprété par Angelina Vores.
Je suis tout à fait d'accord.
Là, franchement, César de la révélation l'année prochaine. C'est extraordinaire. C'est une jeune femme qui arrive de province, qui est attirée finalement le chef de bande des skins et qui a une fascination.
Dont le frère est un skin repenti.
Voilà. Et qui a une fascination pour lui. Et ce personnage, ce que réussit le scénario, et j'ai presque envie de me dire que ça a dû être dur pour le réalisateur d'imposer ça jusqu'à la fin en passant en commission, en financement, que jamais ce personnage féminin n'éprouve le moindre remords dans sa trajectoire qui va la pousser jusqu'à devenir un bras armé de sa vengeance. Et je trouve ça très très fort. Ce qui est encore plus fort, c'est qu'Angelina Vores en fait un personnage finalement qu'on comprend mais avec lequel on peut pas avoir d'empathie, et donc on sait plus très bien où on en est. Il y a un plan sublime dans le film. Il sort d'une boîte, c'est la nuit, elle marche en tête devant la bande de skin, elle est habillée en blanc, ils sont tous habillés en noir, et c'est vraiment l'ange de la mort avec ses démons.
Bien. Le film, bien évidemment, est en salle, vous pouvez d'ores et déjà le découvrir. Nous en venons à présent au dernier moment de notre émission, en tout cas en ce qui me concerne, et puis je laisserai la parole à Francis. Nous en venons au coup de cœur de la rédaction. Je me tourne vers vous. Qu'avez-vous à cœur de partager avec nos auditeurs? Un film, un livre, un album, une exposition, un parfum de glace, un chemin de randonnée? Une méthode efficace pour renverser le gouvernement et s'approprier les moyens de production? Chers camarades, c'est à vous. Florent.
Alors j'aime beaucoup La Glace au Cassis, mais je pense que ça va être plus intéressant que je parle d'un film qui est sorti donc je crois le 18 janvier et que je porte en moi depuis un an et la Berlinale de l'année dernière, qui est Nos Soleils de Carla Simone, dont le titre original donc est Alcaraz, hein, du nom d'un petit village de Catalogne, et qui est vraiment un film magnifique parce que tout à l'heure Thomas parlait d'un cinéma espagnol dont Jonas Ruibas serait un des trublions aujourd'hui. Moi, Carla Simone me parle beaucoup plus parce que c'est vraiment une cinéaste de l'intime. Tous ses films, elle les fait sur... le premier était 93, c'était sur son enfance. Là, elle parle du village de sa mère, elle parle d'une agriculture rurale, familiale, qui est en voie de disparition. C'est un film qui est donc à la fois intime, mais aussi politique, parce qu'il y a énormément de politique dans le film. C'est difficile de passer à côté avec ce type de sujet. Et c'est vraiment magistral, c'est que des acteurs non professionnels. Elle a réussi à créer quelque chose dans cette troupe qui est vraiment génial et je le recommande chaudement.
Alors voilà, je te faisais signe d'être assez court pour laisser pour laisser Margarita partager avec nous son coup de cœur du jour. Quel est-il, Margarita ?
Qui est le même que Fleur.
Voilà, on ne s'est pas concerté. Mais tant mieux. Alors,
bah oui, je suis
Nos Soleils de Carla Simone. Ouais.
D'accord avec toi et c'est un film magnifique. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ça faisait longtemps que je ne voyais pas un film où les personnages sont si réels, dans le sens que c'est vrai qu'ils ne sont pas des acteurs professionnels, mais en même temps, ce n'est pas un documentaire. Et je trouve incroyable. Enfin, chaque personnage est très touchant de sa façon et les relations qui se créent avec eux et les relations aussi qui s'abîment à cause de la situation dans laquelle ils sont amenés. Et oui, je le trouve, c'est un film très personnel, mais à la fois universel, dans le sens qu'il parle en général de notre société dans laquelle tout ce qui n'est pas rentable, en fait, ne peut plus exister. Et du coup, leur
un peu
monde,
comme la critique de cinéma.
Voilà, comme la critique de cinéma, exactement.
C'est une petite private joke, chères auditrices, chers auditeurs. Gilles, ton coup de cœur.
Eh ben, on va faire un grand chelem. Je vais choisir exactement le même film.
Ça, c'est très étonnant.
Pour les mêmes raisons avec un aparté, c'est que...
Vous allez me faire regretter, là, j'aurais dû le mettre au programme.
Je trouve que cette réalisatrice est une réalisatrice de la justesse. Été 93, j'ai pleuré pendant presque tout le film, tellement ce qu'elle disait des enfants de l'enfance, à travers ces petites filles qui perdent ses parents, touché, alors que moi j'ai pas perdu mes parents, mais c'était tellement juste que j'ai pleuré pendant tout le film. Là, ce qu'elle dit sur la parole donnée qui n'a plus cours aujourd'hui, puisque ce vieil agriculteur était métayer des terres sur la parole que lui avait donnée le propriétaire, parce qu'il l'avait sauvé pendant la guerre avec le franquisme, et qui n'existe plus, la parole n'a plus rien à voir aujourd'hui. J'ai trouvé ça absolument, et la dernière chose qui contribue de cette justesse, c'est que moi je suis toujours très réservé sur l'emploi de non-professionnels, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de chômeurs et ne pas faire travailler les comédiens, moi ça me gêne toujours, mais là l'utilisation des non-professionnels est justifiée par l'usage qu'elle en fait et par le film. Quand ils conduisent leur tracteur, aucun professionnel ne le ferait avec le même naturel et ça renforce le côté juste du film. Voilà ce que je voulais dire.
Nos Soleils de Carla Simone. Je vous remercie, Margarita. Merci, Gilles. Merci, Florent. Merci, Les Fiches du Cinéma. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. Merci, Radio Libertaire. Merci. Et surtout, merci, Francis Gavel, à qui je m'empresse de repasser la parole en vous donnant rendez-vous le mois prochain.
Donc, merci, Thomas Fouet. Merci à vous tous. Merci. Là, je pense que vous avez plein de pistes pour aller voir des films tout aussi passionnants les uns que les autres et vous faire votre propre avis, car nous, critiques, sommes là pour initier votre désir. On va se quitter, on va continuer à initier votre désir avec donc le deuxième extrait de notre album du mois, hein, le nouvel album de Me and My Friend. J'avais promis un deuxième titre de Before Us the Sea qui est sorti juste hier, donc c'est tout chaud. On va rester dans cette ambiance feutrée, dans ce groove qui ne s'avoue pas complètement, de micro-mouvements du bassin. On va écouter Lover, Come Back to Me. Vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. C'était Longtemps, je me suis couché de bonheur. Une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, et réalisée par Erwan Charton. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de notre station.
never come back to me. Lover, why don't you eat? Lover, come back to me.
Come back to me.